Chapitre 40. Après s'être garé derrière une caravane blanche délabrée au numéro 16 d'Alnesvegen, Juna consulte sa montre et repense à l'interrogatoire avec Sofia Stefansson. Ils ont affaire à un criminel qui, bien qu'il ait suivi un entraînement militaire extrêmement poussé, déroge à sa mission. Il prend un soin excessif à ne pas laisser de traces, mais il laisse un témoin. Il est d'une efficacité et d'une rapidité remarquables, et pourtant il marque une pause et attend plus de 10 minutes sans rien faire. Il est parfaitement calme, ne tremble pas, n'hésite pas, ne prie pas son Dieu, ne pose aucune question et ne formule pas d'exigence. Cet intervalle temporel vide représente forcément quelque chose pour lui, sur un plan rituel, songe Juna. Dans ce cas, les motifs du meurtre sont bien plus tordus que ce qu'ils imaginent, et la piste du terrorisme conventionnel bien trop simpliste. La porte de la caravane s'ouvre sur une femme en imperméable vert qui sort en tirant la capuche sur ses cheveux blonds. Juna descend de la voiture, la ferme à clé et s'avance vers elle. « Juna Lina !» s'exclame-t-elle. « Moi aussi » répond-il en lui tendant la main. Elle réprime un sourire. « Je m'appelle Ingrid Holm. Je vais te conduire au responsable de l'intervention. Merci, c'est gentil. » Ingrid Holm le fait passer par la porte d'une palissade entre la maison et le garage et entrer dans une partie boisée. Ça sent la bruyère et la mousse chaude. Le vent qui passe dans les cimes des arbres fait pleuvoir des aiguilles de pin sèche. « Il faut que tu marches exactement dans mes pas pour qu'on ne te voie pas depuis la rue. » dit-elle en l'arrêtant au point le plus haut. Ingrid parle dans son talkie-walkie, écoute et attend un instant. Elle demande à Juna de se baisser, lui fait contourner deux pins, lui demande de s'accroupir derrière un rocher recouvert de lichen, puis lui indique qu'il peut se redresser. Il change de direction et marche sur un sentier entre de grands lilas. Le chemin traverse une pelouse et débouche sur une maison en bois jaune, aux poutres angulaires blanches. Dans les herbes folles, un barbecue sur roulette et un petit trampoline partagent l'espace avec un vieux pommier. Ingrid accompagne Juna jusqu'à la porte-fenêtre blanche de la véranda. Le mastic posé autour des fins croisillons est sec et craquelé. Des agents de police en gilet pare-balles tactique occupent l'entrée, la cuisine et le salon. Une odeur angoissante de sueur et de graisse d'armes flotte dans l'air. Des fusils d'assaut oscillent dans leur housse de cuir, des casques noirs sont posés par terre. Toutes les fenêtres du rez-de-chaussée sont masquées par des écrans opaques qui dissimulent l'activité à l'intérieur de la maison. Le premier groupe a pris ses quartiers dans la cuisine, dit-elle avec un geste vague. Juna passe entre quelques hommes crispés vêtus de noir qui patientent devant l'escalier. Personne ne sait que dans quelques heures, plusieurs d'entre eux seront morts. La petite cuisine est occupée par la force d'intervention numéro 1, l'équipe de Gustave, qui suivra Juna de près. Ce premier groupe forcera les portes et les fenêtres dans l'éventualité d'une situation de combat ou de prise d'otage. « Juna ?» demande un homme aux yeux marrons. « Oui, je vous présente Juna Lina, c'est lui qui entrera le premier, » explique-t-il à ses collègues. « Et nous, nous sommes ceux qui viendront te sauver ensuite, » dit un homme au cou de taureau et à la tête rasée. « Je me sens déjà plus rassuré, » sourit Juna, et il serre la main aux quatre hommes qui se présentent les uns après les autres, Sonny, Adam, Jamal et Auguste. « En fait, j'aurais dû être en congé aujourd'hui, » dit Sonny. « Mais putain, qui a envie de louper un truc pareil ?» Adam arpente la pièce d'un pas lourd, réajuste son gilet et son pantalon, et bois quelques gorgées de Red Bull dans une petite canette. Tu pourras peut-être te débrouiller sans ton frangin aujourd'hui. Tu veux que je l'appelle ? Lui demanda Auguste, qui est assis par terre contre le mur. Son frère est mécanicien à bord d'un de nos hélicos, explique Jamal. Sonny inspecte le réfrigérateur, déplace un pot de marmelade et renifle un pack de yaourt à la vanille. Ça m'étonnerait que tu trouves des terroristes là-dedans, dit Auguste avec un bâillement. « Mais si j'en trouve, je les tue !» murmure Sonny, et il se met à manger du jambon fumé directement dans le paquet. « Gustave est là-haut » demande Juna. Oui, il voulait revoir les derniers détails avec Janus, répond Jamal. Un des hommes de la force d'intervention est assis sur la première marche et fixe le vide devant lui. Quand Jouna s'approche, il se lève aussitôt et s'écarte. Ses mouvements sont brusques. Jouna monte l'escalier en bois grinçant et arrive dans une vaste salle de séjour avec deux chambres attenantes. Ici aussi, les fenêtres sont occultées de l'intérieur. Tout le monde a déjà pris ses positions. Les conversations sont brèves et assourdies, comme lorsqu'un avion se prépare à atterrir par mauvais temps. Janus Mikkelsen, le chargé des opérations spéciales de la CEPO, tient à la main le plan de la maison d'en face et discute un point avec Gustav Larsson, qui va mener l'opération sur le terrain. Back in black, dit Janus en serrant la main à Jouna. Qu'est-ce que tu penses de cette intervention? Demande Gustav à Jouna. Tout va probablement se dérouler dans le calme, mais si ça se corse, je dois vous avertir que le criminel est plus dangereux que nous l'avions cru au départ. Nous avons la situation en main, répond Janus avec une pointe d'impatience dans la voix. Vous savez, j'ai parlé avec le témoin juste après notre rencontre, et, d'après moi, notre homme a reçu une formation militaire du niveau des Navy SEALs. D'accord. C'est bon à savoir, dit Gustave avec gravité.
Putain, mais nous avons 6 tireurs d'élite en place, dont moi, rétorque Janus. On a 28 hommes du groupe national d'intervention, des fusils d'assaut, des grenades assourdissantes, des M46.
Je veux juste que vous sachiez que cet homme n'a même pas besoin de réfléchir pour percer à jour votre tactique, précise Jouna. Il va se servir de tout ce que vous avez appris, il connaît votre mode opératoire lors d'une descente, il sait comment vous tenez votre arme pour ne pas la perdre. Là, tu es censé avoir peur, dit Janus avec une tape sur l'épaule de Gustave. Des gouttes de sueur coulent sur son front constellé de taches de rousseur. L'ennui, c'est qu'on n'est pas assez préparé, constate Gustave en passant la main sur sa bouche. Si vous commencez à avoir des pertes, il faut absolument rompre avec vos schémas habituels, poursuit Jouna. Et il se dit qu'il aurait préféré que le gamin se tienne à l'écart de l'intervention. Je descends discuter avec le groupe d'un plan B au cas où, déclare Gustave en rougissant légèrement. Je n'ai pas envie que tu dises à Tantania que je me suis ridiculisé. Fais attention, c'est tout, lui conseille Jouna. Nous sommes tous prêts à mourir pour l'honneur de notre ministre des Affaires étrangères, chuchote Janus en rigolant. Gustave disparaît en bas de l'escalier, son casque à la main. Jouna entre dans la chambre donnant sur le petit bois et regarde l'écran d'ordinateur qui montre ce qui se passe dans la rue. Les branches floues de quelques arbres déplumés bougent dans le vent face au domicile de Parissa. Le numéro 10 de Gnestavegen est une maison mitoyenne, jaune elle aussi, datant des années 50. Des feuilles mortes se sont amassées en bas de l'escalier fissuré. Un balai aux manches claires est appuyé contre le mur. Il reste environ 25 minutes avant l'arrivée estimée de Parissa. Janus vient rejoindre Jouna avec les vieux plans de construction de la maison provenant des services de l'urbanisme. Ses boucles cuivrées et sa barbe naissante donnent un aspect fragile à son visage stressé. Nous n'avons noté aucune activité suspecte autour de la maison, aucune activité tout court d'ailleurs, depuis le départ de Parissa ce matin, dit-il en étalant le plan sur la table. Mais il existe quelques endroits que nous ne pouvons pas voir de l'extérieur. Le vestibule et les toilettes, précise Jouna. Et à l'étage, une personne peut se trouver dans la baignoire ou par terre. Mais l'espace aveugle se trouve surtout au niveau du sous-sol, vers la chaufferie et la buanderie. Cette maison a été construite dans les années 50. À l'époque, ils intégraient de grands abris anti-atomiques. Un instant, l'interrompt Janus. Et il répond à un appel sur son talkie-walkie, écoute et se tourne de nouveau vers Jouna. Parissa est en avance, elle arrive plus tôt que prévu, elle sera là dans moins de 5 minutes.